Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com pour le magazine Campus Lille Info, un magazine qui vous parle des événements qui se passent sur cette université de Lille et aussi de la vie étudiante, des recherches, etc. Aujourd'hui, on va parler d'une fête. Et oui, une fête, c'est quand même important et un beau moment a priori, et c'est la troisième édition de cette fête que vous connaissez maintenant, si vous écoutez l'émission tout au moins, et si vous avez pu y participer lors des éditions précédentes, il s'agit de ce village des sciences qui est organisé à la gare Saint-Sauveur, cette année du jeudi 5 au dimanche 8 octobre. Voilà, donc vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs, de les voir en action et surtout de leur poser des questions. Autour de cette table aujourd'hui, nous avons invité Florence Yéna, qui est chargée de la médiation scientifique à la commu Lille Nord de France. Bonjour Florence.
Bonjour.
Stéphanie Barbet, qui est chargée de communication CNRS Nord Pas-de-Calais et Picardie, je crois.
Tout à fait, c'est ça René, bonjour.
Voilà, bonjour. Maxime Powells, qui est enseignant-chercheur et qui travaille dans un laboratoire intitulé « Évolution écologie paléontologie », bonjour.
Bonjour.
Et puis Sandra Gérard, qui est ingénieure CNRS au Centre d'Histoire Judiciaire. Bonjour Sandra Gérard.
Bonjour à vous.
Voilà, donc un événement évidemment qui vous a mobilisé en termes de préparatifs pour que ce village donc de la science soit une réussite cette année encore. Et on entrera dans le concret de la recherche avec des activités qui seront gratuites et accessibles. Le public visé, bien, peut-être qu'on peut demander à Florence Yéna d'introduire ce sujet.
Oui, alors juste, je me permets de remettre dans le contexte l'événement. Donc en fait, il va se situer dans le cadre de la fête de la science qui en fait a lieu au niveau national. Partout en France, il y a des milliers d'événements et du 7 au 15 octobre. Donc pour même au niveau régional, vous pouvez aller sur le site de la fête de la science, retrouver toutes les informations. Et en ce qui nous concerne, effectivement, cette année, donc le CNRS, l'Université Lille et la Commune Lille Nord de France organisent le village des sciences à la gare Saint-Sauveur. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, ce qu'on a indiqué comme âge, c'était à partir de 11 ans. Mais on a aussi des ateliers qui peuvent recevoir des chercheurs qui ont prévu des animations pour un petit peu plus jeunes, quoi.
Voilà, donc 11 ans, on va dire, c'est l'âge de raison d'une certaine manière, peut-être, on peut le définir comme ça, en tout cas l'âge où on peut s'intéresser aux sciences et où on est déjà dans un cursus, soit en CM2 peut-être, ou carrément dans un collège. Et ensuite, bien sûr, il y a toutes les études du secondaire qui, on l'espère, amèneront des passions et certainement des intérêts particuliers pour la science, l'idée étant bien sûr de nourrir aussi tout ce vivier de chercheurs, de recherches dans notre, on va dire, belle région des Hauts-de-France.
Oui, alors effectivement, pour préciser, j'ai indiqué 11 ans. En fait, c'est surtout pour le public scolaire qu'on va recevoir le jeudi et vendredi sur réservation. Mais après, le samedi et dimanche, c'est ouvert. Enfin, c'est un public très familial qui vient depuis 2 ans. Et donc, il n'y a pas de souci. Ça peut être des enfants plus jeunes aussi qui s'intéressent à la science autrement qu'avec l'école.
Merci Stéphanie. Merci Florence. Yéna. Stéphanie Barbet, le CNRS intervient donc dans ce dispositif. Qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous proposerez ?
Alors nous, c'est un événement qui a vraiment beaucoup d'importance pour nous depuis 3 ans aussi, où on s'inscrivait en fait en tant que participant au Village des Sciences qui était à l'époque organisé par la Commu. Et c'est vrai qu'on avait de nombreux chercheurs, de plus en plus nombreux, et du coup, ça nous a paru logique avec Florence aussi, parce qu'en ce moment, on est dans une logique partenariale avec l'Université de Lille, le CNRS et la Commune Lille Nord de France, de s'associer. Voilà, à trois, on est aussi plus fort pour faire un encore plus beau village des sciences, puisque cette année, il y aura quand même pas moins de 150 chercheurs qui vont se relayer sur les 4 jours, sur les 25 ateliers qu'on va proposer.
Voilà, alors cette année, il y a un thème plus particulier, on va dire, hein, qui est
le voyage.
Voilà. Donc, voyage dans toutes ses dimensions, notamment mouvement et migration, qui seront donc des thématiques qui vont être illustrées d'une certaine manière.
tout à fait. Et ce qui est intéressant sur le village, c'est que les chercheurs viennent de toutes les disciplines en fait, de la recherche. On a aussi bien des chercheurs, vous allez pouvoir les entendre tout à l'heure, qui viennent des sciences humaines et sociales. On a des chercheurs qui viennent des sciences, des physiciens, des chimistes. On a vraiment de tout. Et du coup, qui vont venir aborder selon leurs propres thématiques ce que pour eux évoque la thématique voyage. Et donc, du coup, vous aurez de belles surprises, vous verrez.
Alors, Maxime Powels, donc, qui est enseignant-chercheur, hein, qui s'occupe d'évolution, d'écologie et de paléontologie. Quel lien on peut faire entre ces trois mots importants, ces trois concepts, évolution, écologie et paléontologie? C'est tendance, ça, non?
Tendance, je l'espère. Ce serait une bonne nouvelle pour le laboratoire. Mais... quel lien on peut faire? On peut en faire mille. Globalement, tout ça s'intéresse à la biodiversité au sens large, quoi. Comment elle est organisée, comment elle est structurée, comment elle se déplace éventuellement, puisque dans le cadre du thème de cette année, c'est de ça dont on va parler. Et puis, peut-être que je dirais que, en fonction des mots-clés, là, écologie ou paléontologie, par exemple, on va s'intéresser surtout à des échelles de temps différentes. Et ce sera le cas sur le stand, d'ailleurs. On aura des illustrations de mouvements d'espèces, plutôt végétales, à différentes échelles de temps.
Physiquement, concrètement, on verra des vidéos, on verra des photos, comment ça se passe, ou peut-être des démonstrations?
Alors, on a une vidéo, on a des photos, mais on aura aussi des manipulations à proposer. Mm-hmm. Donc notre stand, nous, il sera focalisé sur les espèces végétales. Alors ça fait partie des modèles sur lesquels on travaille au laboratoire. Ce qui nous amusait un peu, c'est le paradoxe de se dire ces espèces végétales qu'on imagine immobiles, fixées à leur substrat, est-ce qu'elles voyagent? Mais oui, elles voyagent. Et donc on va essayer d'illustrer ça en essayant de mettre en évidence les différentes structures qui permettent aux espèces végétales de se déplacer. Et donc, par exemple, ce sont les spores des fougères ou le pollen des pins ou des plantes à fleurs. Et donc, on aura une préparation microscopique, par exemple, de sporanges de fougères pour montrer les spores. On aura une préparation microscopique de grains de pollen de pin pour mettre en évidence ça. Et puis, donc avec un support visuel aussi pour accompagner les préparations, pour pouvoir les commenter un peu. Et donc ça, c'est pour discuter un peu des mouvements des espèces à petite échelle de temps, donc ce qu'on appelle nous les temps écologiques. Et puis aux échelles de temps plus importantes, on aura des fossiles aussi sur le stand pour essayer de réfléchir à ce que le registre fossile nous indique sur les voyages des espèces, y compris végétales. Et par exemple, on s'amusera à montrer qu'on trouve en région des fossiles d'espèces du Carbonifère, par exemple, qui sont des espèces tropicales. Et donc, a priori, n'ont rien à faire en région. Donc, si elles sont tropicales, c'est qu'elles ont bougé. Et donc, on réfléchira aux mécanismes qui font qu'on peut trouver des espèces qui ont, d'une certaine façon, voyagé alors qu'elles étaient tropicales vers des latitudes tempérées comme les nôtres. Quoi.
Alors, les habitants du bassin minier, je parle peut-être des plus anciens ou des mineurs, hein, pourquoi pas, ont trouvé beaucoup de fossiles. Hein, ils les ont conservés souvent chez eux. Donc des traces de végétaux qui ont souvent disparu de notre région, qui montrent aussi que la région a muté d'une certaine manière en termes de climat ou en termes de géographie, pourquoi pas de géologie ?
Les deux. En fait, la région a surtout bougé, elle a voyagé. En fait, le registre fossile, le registre des espèces fossilisées a voyagé à travers les continents. Et donc si on trouve actuellement des espèces qui ont disparu de la région, mais on pourrait dire disparu de la planète aussi, puisque c'est des espèces qui ont 300-400 millions d'années, donc elles sont plus représentées actuellement, en tout cas pas sous la forme où elles étaient présentes à l'époque, c'est parce qu'elles n'ont jamais existé sous nos latitudes. Il y a 300 ou 400 millions d'années, la région n'était pas du tout là où elle est aujourd'hui, elle était plutôt même dans l'hémisphère sud. J'espère pas dire trop de bêtises si mes collègues m'écoutent, parce que c'est pas ma spécialité, mais et c'est la raison pour laquelle on a des espèces qu'on ne trouverait pas normalement. C'est tout simplement parce que si on avait vécu dans la région il y a 300 ou 400 millions d'années, on aurait été plutôt dans l'hémisphère sud. On serait passé aussi par l'équateur, par les tropiques. On aurait eu un peu plus chaud qu'actuellement.
Donc ce que vous nous dites là, ça peut faire penser qu'en étudiant les migrations des végétaux, on peut aussi en déduire des lois pour les humains ?
Non, je ne sais pas si vous avez une idée derrière la tête avec une question comme celle-là, mais Ben, en tout cas, ce qu'on appelle la biogéographie historique ou la paléobiographie qui s'intéresse à la distribution des espèces sur les temps anciens, sur des grandes échelles de temps, c'est pas tout à fait transposable à l'espèce humaine, puisque l'espèce humaine a quelques millions d'années tout au plus, et à cette échelle de temps-là, les continents n'ont pas beaucoup bougé, quoi. Donc ce phénomène-là, de mouvement des fossiles sur des très longues distances, hein, à l'échelle de la planète, on le retrouve pas sur les fossiles humains, parce que l'âge de l'espèce humaine est trop court pour avoir permis ça, quoi.
Par contre, les changements climatiques vont induire forcément des modifications.
Oui, absolument. Alors, on aurait pu l'envisager sous cet angle-là, et probablement que ce sera discuté. Mais on l'a un peu envisagé les années précédentes. On a parlé un peu de ces choses-là les années précédentes. Mais probablement que ce sera discuté avec le grand public, ou peut-être, j'espère, avec les scolaires, pourquoi pas. Effectivement, la modification du climat, comme c'est le climat est un élément important qui détermine où une espèce se développe ou ne se développe pas, ça peut entraîner des migrations d'espèces. Ouais.
Voilà, donc dans cet atelier, on peut repréciser quel serait le moment le plus favorable pour le visiter et puis pour poser des questions, Maxime Poels, ce qui sera présenté là-bas au Village des Sciences.
Le moment le plus favorable, vous voulez dire
pour les visiteurs.
Eh bien, pour les scolaires, c'est quand ils viennent nous voir, puisque leur passage est programmé.
Quand même,
ouais, parce que leur passage est programmé. Donc, je me souviens plus du détail des sessions, mais ils auront un certain temps pour échanger avec nous. Et puis, pour le grand public, quand ils veulent, quand les portes sont ouvertes, qu'ils viennent nous voir, on discutera volontiers avec eux.
Les samedis et dimanches, à partir de 12h.
Voilà.
Voilà. Donc, du 5 au 8 octobre, et donc le samedi 7 le samedi 7 et le dimanche 8, c'est bien cela. Donc, je rappelle que cet événement, le Village des Sciences, qui est bien sûr intégré dans la fête de la science, se passe à la gare Saint-Sauveur de Lille. C'est la troisième année et le grand thème, c'est « Mais que font les chercheurs ?» Alors, on essaie de le découvrir là au fil de cette conversation. C'est un peu l'idée de voir concrètement, parce que le grand public n'a pas toujours une conscience concrète de ce qui se passe dans les labos. C'est l'occasion, bien sûr, de ce village de faire connaître, peut-être par des ateliers, enfin, non seulement des ateliers, mais peut-être dans le choix des chercheurs et des recherches, des choses qui parlent au public. Peut-être qu'on peut demander à Sandra Gérard, justement, les ateliers présentés et les disciplines ou les recherches qui ont été sélectionnées sont celles qui ont le plus, je veux dire, de possibilité de se mettre à niveau du public.
Alors, le choix a été fait pour effectivement se mettre à la fois à la portée du public, mais notre objectif pour nous était double, c'était à la fois présenter nos supports de travail, présenter la matière sur laquelle on travaillait, à savoir l'histoire de la justice, mais aussi le faire de façon assez ludique pour pouvoir aussi s'adresser à des enfants, tout en restant aussi accessible à un grand public. Donc en fait, nous, notre atelier va se décliner en trois temps, puisqu'on va aborder trois magistrats qui ont exercé à trois époques différentes, sous trois latitudes différentes, puisqu'on parlera aussi, on évoquera aussi la situation d'un magistrat en situation coloniale. Donc en fait, on se propose de faire voyager le public dans le temps avec des magistrats.
Il y a un film qui est remarquable, qui s'appelle « Le voyage du juge Feng », F-E-N-G, et qui est, je vous dis ça comme ça parce que ça m'a ému, et vraiment, voilà, j'ai compris ce qu'était un juge à ce moment-là, enfin, la souplesse qu'il devait avoir et la fermeté d'une certaine manière, le respect des lois en s'adaptant au public, ou l'endroit où il exerçait. Ça se passe dans une province de Chine, et donc cette personne qui est juge va prendre sa retraite. Et avec lui, il y a un nouveau postulant qui va être juge, donc un stagiaire, on va dire, et qui s'initie aux joies du droit et de la justice. Et donc, quand il intervient dans un village, il a tendance à appliquer la loi, rien que la loi, etc. Et puis, il se rend compte que d'une colline à l'autre, hein, d'un village à l'autre, hein, c'est vraiment très proche, les gens ont des habitudes différentes. Et donc, le vieux juge avait l'habitude de la psychologie, justement des rituels, des coutumes. Et l'autre mettait les pieds dans le plat à chaque fois et ça ne fonctionnait pas. Bon, après, il a quand même compris. Mais c'est vraiment génial, ce film. Le dernier voyage du juge Feng.
Eh bien, écoutez, je crois que vous avez résumé toute l'essence de notre atelier. L'idée est vraiment ça. C'est de montrer à la fois aux enfants, enfin, en tout cas, après, lorsqu'on va accueillir les scolaires, leur montrer qu'on ne jugeait pas de la même manière lorsqu'on était sous l'ancien régime, que les principes qui dirigeaient la justice n'étaient pas les mêmes que lorsqu'on est passé sous une justice républicaine, et effectivement prendre en compte le contexte et la situation, une situation de droit coutumier, etc., qui peut s'appliquer à un juge français qui vient de métropole et qui va rendre la justice dans un pays qui lui est totalement étranger, tant au niveau des mœurs, des coutumes, des rites et du mode de fonctionnement de la justice locale. Et donc le troisième magistrat qu'on évoquera, c'était peut-être plus un petit clin d'œil à la région, puisqu'on évoquera Malissé, qui est un juge qui a exercé pendant la période de la Première Guerre mondiale, et donc qui était en poste dans le tribunal de Péronne, et qui en fait a tenu un journal pendant toute cette période où il raconte un petit peu sa vie quotidienne et la façon dont était rendue la justice en temps de guerre. Donc voilà, c'est vraiment trois époques, trois périodes, trois situations géographiques totalement différentes. Et l'idée, c'était pour ces trois supports faire écho à trois affaires judiciaires. Et derrière tout ça aussi, fournir trois supports de recherche, puisqu'on permettra aux participants de l'atelier de s'initier à la paléographie. On leur permettra d'essayer de reconstituer le journal de Malissé. Mais peut-être qu'il ne faut pas que j'en dise trop, parce que là, je suis peut-être en train de dévoiler un petit peu l'atelier, puisqu'en fait, Malissé, pendant un temps, avait découpé son journal en toutes petites bandes pour que les Allemands ne tombent pas dessus et ne puissent pas le reconstituer et ne pas avoir connaissance de ce qu'il y relatait. Et en fait, c'est son fils qui a confié ces archives-là à l'Historial de Péronne. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par un chercheur de notre laboratoire, qui est Annie de Perchin, qui a consisté en fait à reconstituer ce journal. Enfin, son fils avait déjà beaucoup travaillé. Et ce journal a donc été reconstitué. Et donc, il a fait l'objet d'un ouvrage. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de montrer les différents supports qui sont parfois un petit peu originaux lorsqu'il peut s'agir d'archives privées, mais aussi d'archives publiques. Et aussi montrer un petit peu ce que l'on en fait. Puisque faire de la recherche, c'est bien, mais le livrer, le partager, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas au Centre d'Histoire Judiciaire.
Voilà, donc on a compris que s'il y a des lois actuellement, elles s'appuient aussi sur une histoire et puis des évolutions qui sont aussi liées aux évolutions de la société.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est vous, enfin, je pense que de toute façon, vous avez clairement résumé l'objectif de notre atelier. Alors j'espère qu'on arrivera à faire passer ce sentiment, en tout cas cette idée-là à tout le monde, parce qu'effectivement, c'est ce qui se dégage systématiquement, en tout cas de nos recherches. Et les rendre accessibles au grand public, c'est très important pour nous. En tout cas, encore une fois, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on a toujours tendance à penser que les scientifiques sont dans leur tour d'ivoire et ont beaucoup de difficultés à se rendre accessibles au grand public. Et nous, on se réjouit de voir qu'il y a de plus en plus de manifestations qui se développent et qui permettent effectivement de faire comprendre un peu à tout le monde l'essence de nos recherches.
Alors là, je ne vous demande pas forcément de réponse, sauf si vous vous sentez en capacité, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a les lois qu'on mérite ?
Alors là, c'est un vaste débat. On m'avait dit que vous alliez poser une question, voilà, c'était pour moi.
On a les dirigeants qu'on mérite peut-être, ça te va comme réponse?
C'est souvent eux qui font les liens après.
Peut-être pour la laisser réfléchir, je peux répondre à votre question sur... quand vous nous dites, mais que font...
Les chercheurs.
Combien tu veux de temps? que font les chercheurs en fait, je me dis, c'est une question étonnante de se dire, on va montrer ce qu'ils font avec un événement qui s'appelle la fête, parce qu'on ne fait pas la fête tous les jours quand même, mais ça montre bien qu'il y a un double défi dans cette manifestation. C'est à la fois un événement très vulgarisé, donc il faut pouvoir parler au public effectivement de manière accessible, c'est pas toujours l'image qu'on dégage. Et en même temps, si l'objectif c'est de montrer ce qu'on fait, on doit forcément pouvoir introduire tôt ou tard les concepts ou outils qu'on utilise qui sont... Pas destiné au grand public, est un peu difficile. Et dans la préparation du stand, on a souvent les deux à l'esprit, c'est-à-dire on veut à la fois s'adresser de façon accessible à presque de 7 à 77 ans, hein, parce que de 11 ans, il n'y a pas de limite supérieure, et donc avec un langage très accessible, qui n'est pas notre langage au quotidien finalement, puisque ce que font les chercheurs, ce n'est pas ça au quotidien, c'est des travaux qui sont souvent plus complexes, et donc on doit pouvoir aussi, à travers cette vulgarisation, laisser paraître notre travail au quotidien, qui pour le coup est beaucoup plus... abscon peut-être pour le grand public, mais et ça c'est le double défi de ce type d'événement. Ouais.
Voilà, donc on a une partie, c'est une forme d'immersion dans un monde que les citoyens ne connaissent pas forcément, la recherche, l'occasion donc de questionner, et peut-être de se questionner pour le public.
Bah, c'est ce qu'on recherche, hein. c'est un des objectifs. On veut que les gens soient, en général les gens qui viennent sont curieux déjà, qu'ils soient néophytes ou qu'ils adorent déjà les sciences. Et ils viennent chercher, voilà, déjà ils viennent chercher des choses qui vont les surprendre, premièrement, et ensuite ils viennent voilà, découvrir, apprendre, en général ils ressortent de là voilà, en se disant que, voilà, qu'ils ont un petit bagage en plus, un petit bagage en plus pour rentrer chez eux, quoi. Donc c'est l'objectif.
Mais effectivement, une question qui survient quand on rencontre le grand public, c'est est-ce que ce que je fais intéresse quelqu'un d'autre que moi-même ? Et donc forcément, on finit par se questionner en disant est-ce que ce que je fais a un sens en dehors de ce que je fais dans mon bureau, dans mon labo. Et on y réfléchit nécessairement dans ce type d'événement, quoi.
Alors, en vous voyant, on est rassuré. La curiosité intellectuelle, c'est ce qui vous détermine aussi en termes de recherche. Est-ce que vous sentez le public de plus en plus intéressé par cette curiosité qui vous anime, est-ce qu'elle s'empare du public ou vous pensez que actuellement il y a peut-être un glissement vers un manque de volonté d'évoluer intellectuellement et de chercher et de se resserrer sur des valeurs sûres ou qu'on prétend telles?
Je me permets de commencer une réponse. Je pense qu'en fait, il y a une grosse demande d'une certaine partie du public pour ce genre d'événement et tous les autres événements aussi qui concernent la culture scientifique. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vraiment avoir un accès direct aux chercheurs pour avoir souvent des réponses aussi à leurs questions, mais et aussi peut-être une sorte de vérité, enfin entre guillemets quoi. Mais je suis quand même persuadée qu'il y a toute une partie du public qu'on laisse de côté, enfin qu'on ne touche pas. Et je pense que c'est un des défis, en tout cas, du métier de médiation scientifique, d'arriver à essayer d'aller vers cette partie du public, pas pour obliger les gens à s'intéresser aux sciences, mais plutôt de comprendre un peu aussi quels sont leurs besoins, quelles sont leurs visions de la société, et d'essayer de créer des ponts. Toutes les théories conspirationnistes, etc., qui peuvent être séduisantes ou enfin qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut faire peur, mais je pense qu'il y a différents publics, en fait, comme ça, voilà.
Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la société creuse ses inégalités, que les couches socioculturelles relativement favorisées s'entretiennent et font que leurs enfants accèdent toujours par rapport à d'autres à des fonctions ou à des emplois privilégiés.
Oui, oui. Enfin.
Donc ma question, c'est est-ce qu'on pourrait inverser les choses en faisant que des enfants qui se sentent curieux puissent entraîner leurs parents à évoluer eux-mêmes en allant voir justement vos présentations.
Oui, c'est l'idéal. Après, c'est vrai que des fois, il y a des élèves qui viennent dans le cadre scolaire qui après peuvent inviter leur famille à revenir le week-end. Donc ça, on le voit aussi. Après, on ne peut pas demander aux chercheurs non plus de résoudre ce problème qui est en fait un problème plus profond d'éducation, voilà, culturelle.
Alors, aujourd'hui, ce que je vois de la recherche, c'est un équilibre, j'allais dire, presque majoritaire du point de vue féminin dans ce studio. Est-ce que la recherche, d'une manière globale, est à l'image de la composition de ce plateau d'aujourd'hui ?
Alors moi, je vais juste intervenir pour dire que nous, on n'est pas chercheurs. Oui, donc du coup,
D'accord, donc il y a une parité complète.
Voilà, aujourd'hui voilà.
Mais dans vos métiers, vous les ressentez ? Je parle aux chercheurs. Vous ressentez une parité ou vous voyez des manques ça dépend peut-être des disciplines.
Je pense que ça doit dépendre des niveaux hiérarchiques plutôt, mais dans les laboratoires, je trouve que c'est relativement. J'ai pas fait les comptes là avant de venir, mais j'ai l'impression que c'est relativement équilibré. En tout cas, il y a une présence féminine qui est nette. Je me demande même si elles sont pas un peu majoritaires dans le laboratoire. Après, j'entends parfois dire que quand on monte dans la hiérarchie, il y a des biais qui surgissent, mais. J'y suis pas dans cette hiérarchie, donc je maîtrise pas bien, mais en tout cas, j'ai l'impression que la situation semble s'améliorer. En tout cas, le débat est ouvert.
Le CNRS, dont je suis membre, tend effectivement à développer une politique de féminisation de son personnel. Mais bon, non, globalement, je pense que l'équilibre se fait dans les laboratoires et effectivement, la différence se fait peut-être au niveau hiérarchique, sans doute.
Alors, puisque vous êtes là, j'aimerais que vous donniez. Voilà. aux auditeurs qui sentent qu'il y a quelque chose derrière tout ça d'intéressant, comment les convaincre d'aller plus avant, voire même, pourquoi pas, de chercher eux-mêmes ou d'entrer dans des cursus de formation à la recherche?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, sur la thématique qui est la nôtre, qui est l'histoire de la justice, je pense que c'est plus simple de convaincre les gens et de l'intérêt que ça peut représenter pour comprendre le fonctionnement d'une société, pour comprendre les rouages des institutions, comprendre comment les uns dépendent des autres. Et effectivement, je crois que c'est avant tout de devenir un bon citoyen. Avant tout, c'est ça qui peut les guider vers la recherche. Mais il y a aussi un côté très ludique. Enfin, on fait des métiers qui sont passionnants. Enfin, en tout cas, moi, je travaille en sciences humaines, donc je travaille sur l'homme. Et voilà, découvrir comment l'homme interagit sur son histoire et en fait, se dire que l'histoire, elle est faite d'hommes. C'est les hommes qui la composent, c'est eux qui décident finalement de la façon dont se fait cette histoire. C'est quelque chose de passionnant. Travailler sur l'humain, c'est passionnant. Et voilà, c'est un métier de passion, je crois. C'est surtout ça qu'il faut essayer de leur transmettre.
Il faut faire de la séduction auprès des étudiants, c'est ça. Donc en fait, ma réponse, elle va être un peu mitigée. D'un point de vue citoyen, en effet, s'engager dans une démarche de recherche ou de science en général, c'est acquérir une certaine rigueur intellectuelle, une exigence intellectuelle qui est sûrement nécessaire dans un monde complexe si on ne veut pas être emporté dans des dérives, comme on entend parfois, conspirationnistes ou autres. Après, dans les perspectives d'insertion dans la vie active à long terme, bon, la recherche n'est pas forcément actuellement la voie la plus fertile, quoi. Mais on espère que ça s'améliorera. Mais on sait nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, que nos étudiants, après un doctorat, ont du mal à s'insérer. Donc,
Alors, si je vais plus loin, est-ce qu'on peut imaginer que la bonne santé d'un pays peut aussi se mesurer à la bonne santé de sa recherche ?
Tout à fait. Complètement d'accord.
Donc il faut œuvrer pour que, voilà, si on ne veut pas que la France se dégrade à tout point de vue.
Tout est dans la définition de ce qu'est la bonne santé de la recherche, mais peut-être on a une demi-heure de plus, si vous voulez, on en parle.
La prochaine
fois,
on fait un sujet là-dessus, d'accord.
La santé de la recherche, c'est quelque chose qui peut être débattu pas mal.
Voilà. Moi, je voulais peut-être ajouter que, pour moi, le Village des Sciences, c'est avant tout un événement culturel. Donc après, les institutions peuvent y voir le moyen effectivement de promouvoir les laboratoires et que les jeunes aient des vocations. Alors c'est bien, c'est super, mais je pense qu'il y a surtout un objectif démocratique derrière de pouvoir se dire qu'on a accès à des savoirs qui nous font réfléchir sur la société. Et le thème migration, je pense qu'il est assez d'actualité. Donc en fait, tous les chercheurs qui vont travailler sur ce thème-là avec les gens, ça peut leur donner un point de vue et les faire réfléchir sur la crise actuelle qu'on traverse et qu'on retraversera sans doute encore bientôt à cause du climat.
Pour faire la jonction peut-être entre vos deux dernières remarques, peut-être que la santé d'une société se mesure plus au niveau de culture scientifique moyen qu'à la santé de la recherche elle-même, quoi. Mais on peut prendre la demi-heure qui vient, si vous voulez, on en parle.
Très bien, on va y réfléchir pour une autre émission. Voilà, merci. Allez, dans l'ordre inverse, Maxime Poels, qui vient de faire une petite conclusion. Merci à Florence Yéna, qu'on a entendu juste avant.
Merci,
Sandra Gérard, et puis Stéphanie Barbet. Je rappelle que le Village des Sciences, dans le cadre de la Fête de la Science, se tiendra du 5 au 8 octobre à la gare Saint-Sauveur de Lille. Et que c'est gratuit, ouvert à tous, et surtout le samedi et le dimanche pour le grand public, si j'ai bien compris, je résume. Et le thème voyage, mouvement, émigration, évidemment, c'est un thème important. Alors, je ne vais pas passer la chanson voyage maintenant, mais le cœur y est, d'accord. Merci à tous et
merci.
Bonne fête de la science.
Merci.
Merci.
Au revoir.